Au jardin. Pendant 21 ans, je fus le secrétaire particulier du plus grand architecte paysagiste d'Amérique latine, un homme dont vous avez certainement entendu parler. Sinon, vous vous êtes sans doute assis dans l'un des parcs conçus par lui, à moins que vous ne teniez absolument à éviter les endroits publics, auquel cas vous avez peut-être eu la chance de vous asseoir dans l'un des nombreux jardins privatifs qu'il a créés dans notre magnifique cité ou en dehors, dans les collines ou les vallées, à l'intérieur des terres ou en bordure de mer. Et si vous étiez parmi les plus vernis, vous avez même peut-être visité le jardin qu'il a imaginé pour lui-même sur le domaine de Three Winds, l'un des plus fascinants au monde selon les commentateurs et les experts, comparable à El Novillero et à Compton Acres. Si oui, nous nous sommes même probablement rencontrés, puisque c'est moi qui recevais les visiteurs en tant que secrétaire particulier pendant mes années à Three Winds, conduisant le nouvel arrivant dans le salon toujours frais, aussi étouffante que fût la chaleur extérieure, ou, s'il restait pour la nuit, dans la chambre d'amis. Là, je le laissais se remettre tranquillement de son voyage, se changer ou se reposer dans le fauteuil en rotin. 20 minutes plus tard, je frappais, avec un verre de limonade sur un plateau de cuivre martelé et une invitation à se rendre dans le patio à la demi, heure à laquelle le plus grand architecte paysagiste d'Amérique latine commencerait sa visite guidée des hectares débordant d'espèces rares, si rares qu'il faudrait marcher au cœur de la forêt pendant des jours entiers pour les trouver, sans même peut-être jamais y parvenir. Certains des arbres furent plantés par ses soins il y a plus d'un demi-siècle. Quand je mourrai, disait-il, veillez à ne rien déplacer. Même pas les comprimés sur la table de nuit, demandai-je. Bon, d'accord, répondait-il, mais seulement les comprimés. Je suis un réaliste et un homme de la terre, criait-il quand il n'aimait pas mon regard. J'ai bâti ma maison de mes mains, donc je ne pense pas qu'il soit trop demandé, quand je mourrai, que mes lunettes restent là où je les ai laissées. Parce qu'il avait l'espoir, aujourd'hui bafoué par l'histoire dont il avait croisé le chemin malgré lui, que Three Winds deviendrait un musée où le public tomberait, comme lui, amoureux de la flore de notre magnifique pays. Il portait son fardeau de regrets, comme tout le monde. Tant de ses rêves ne se réalisèrent jamais, et d'autres uniquement au terme de nombreux compromis, mais au moins sur ces hectares tout existait, dans la limite du possible selon sa conception. Le reste dépendait de la nature. Et la nature, avait-il coutume de dire, n'étant rien paisible. Ce n'est pas une légère brise ni le soleil levant au sommet des montagnes, comme on aimerait le faire croire dans les livres pour enfants. Ce ne sont ni des petites fleurs roses en boutons, ni une rhapsodie de vert. Avez-vous déjà remarqué que ce qu'on qualifie de vert dans ce pays est en réalité noir? Une infinité de feuilles noires. La nature est une chose cruelle et manipulatrice, me disait-il quand nous étions seuls, ce qui arrivait souvent. Elle est agressive et étonnamment meurtrière. Les faibles sont tués, d'abord torturés, puis tués, et les forts se nourrissent de la décomposition et de la pourriture. N'écoutez donc pas ceux qui vous disent combien sont paisibles le bruit du vent dans les arbres et le chant des grillons. Les grillons sont seuls, ils traînent leurs ailes sur une veine hérissée de dents en espérant que l'un des leurs les trouvera, soit pour s'accoupler, soit pour se battre. N'écoutez pas ceux qui vous parlent du chant du grillon ou vous récitent des poèmes sur les roses. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas cueillir de fleurs ni apprécier leur beauté, simplement que le fait que vous les cueilliez et les appréciez fait partie intégrante de leur stratégie et non l'inverse. Mais il ne parlait pas toujours ainsi. Au terme d'un bon repas entre amis, il était capable de soliloquer pendant des heures à propos du ginkgo préhistorique qui renferme la connaissance des dinosaures, des broméliacées qui survivent sur des grains de poussière et des gouttelettes d'humidité, ou encore du temple des mousses de Sayoji, dont l'étang est recouvert d'un lit d'algues à travers lequel la pluie s'achemine tranquillement vers la mort. Il pouvait philosopher sur le jardin d'Épicure, captiver son auditoire avec l'histoire de ses aventures dans la forêt tropicale ou de ses voyages en Asie quand il était jeune, où il avait marché dans les pas de Bachot jusqu'au mont Aguro. Tout dépendait de son humeur qui pouvait basculer comme une bouteille d'encre et répandre le noir autour d'elle. Dans les dernières années, les amis se firent rares, mais au début, ils venaient du monde entier, écrivains et artistes connus, dignitaires de tous bords, afin de se voir offrir une visite privée de Three Winds et de signer le livre d'or à gland doré. Pendant 21 ans, je fus le secrétaire particulier du plus grand architecte paysagiste d'Amérique latine. Ce furent des années noires dans l'histoire de notre pays, mais dehors le soleil brillait comme il a toujours brillé ici et brillera toujours. Derrière des portes closes, dans des sous-sols, des entrepôts et de grands complexes secrets, le soleil ne brillait pas, mais dehors il brillait toujours. Un jardin a besoin du soleil. Un jardin est un agencement de lumière, avait-il coutume de dire. Il faut prévoir comment le soleil se couchera dessus, comment il se lèvera, d'où il brillera, comment il le traversera, comment chaque feuille révélera ou dissimulera. Le jour où je sortis diplômé de l'école d'horticulture, le soleil brillait comme d'habitude et je me rendis à bicyclette au nouveau parc, dans le nord de la ville, celui que la presse avait déjà rendu célèbre bien que le chantier eût à peine commencé. Je me présentai au bureau du parc. À l'époque, il avait été installé provisoirement dans un bâtiment qui devint ensuite une buvette où les visiteurs pouvaient commander un café et le déguster à l'ombre d'un platane géant. L'arbre n'était pas encore arrivé sur un camion à plateforme et, inconscient du sort qui lui était réservé, penchait encore sous le vent de quelques provinces. Il était là, assis à un bureau couvert de piles de papier et de dessins, le célèbre botaniste et architecte paysagiste, nouvellement nommé directeur des jardins publics, hâlé et les cheveux blanchis par le soleil et l'âge. Il leva à peine les yeux sur moi. « J'aimerais postuler à un emploi, » annonçai-je. « Nous avons tous les jardiniers qu'il nous faut, » répondit-il en continuant à tourner des pages. J'ignore ce qui me prit, peut-être le courage qui vient quand on se trouve en présence de son destin, mais je dis « Sûrement pas un comme moi ». Cette fois, il leva vraiment les yeux, et un vague sourire passa sur son visage, puis disparut derrière sa tête. Il considéra d'abord mon pantalon, la terre sous mes ongles, et enfin mon visage. Je me raidis sous son regard. « C'est-à-dire comment ? » demanda-t-il en s'appuyant contre le dossier de son fauteuil qui laissa échapper un cri de terreur. Je pensais au Phalaenopsis bellina que j'avais trouvé dans un bac à ordures quelques mois plus tôt, puis emporté chez moi et soigné jusqu'au jour où il s'était remis à donner de jeunes pousses vertes, et, Dieu me pardonne, je dis, comme quelqu'un capable de faire rejaillir la vie chez un mort. Le parc était encore en chantier, les allées n'étaient toujours pas tracées, la future serre n'était encore qu'un trou d'eau tiède infesté de larves de moustiques. On commençait à peine à amener la terre destinée aux pentes onduleuses des jardins du haut, et les bustes des généraux étaient encore à la fonderie nationale. Mais il avait dû sentir combien je comprenais la beauté de son projet, une nature sauvage, tout juste maîtrisée. Il avait dû sentir aussi mon empressement, l'enthousiasme avec lequel j'étais prêt à m'atteler à la tâche. Je n'avais pas d'autre allégeance, pas de parents, pas d'enfants, pas d'ambition autre que celle d'exister parmi les feuilles et les noms latins. Ce jour-là, donc, assis à côté de lui, je pris des notes sous sa dictée tandis qu'il compulsait ses plans, et je ne ratai rien. Je n'eus pas besoin qu'il me dise comment épeler Trochodendron aralioides ou Xanthoroea praeici, et quand il lui arriva de confondre une plante avec sa cousine, je corrigeai l'erreur sans la lui signaler. À 16 heures, il me congédia en me recommandant de revenir le lendemain avec des ongles propres. À 8 heures tapantes, je repris ma place à ses côtés. J'éprouvais pour lui le plus grand respect. J'avais l'impression d'avoir été... Quoi donc ? D'avoir été choisi, surtout. D'instinct, je savais quand le suivre et quand m'éclipser, quand lui souffler le mot qu'il cherchait et quand absorber ses paroles comme une pluie battante. « Que voulez-vous que je vous dise ? » hurlait-il souvent. « Je suis un réaliste, un homme de la terre, moi, et les deux réclament peu de mots. Si je n'étais pas devenu ce que je suis, j'aurais pu être poète. » « Je les respecte énormément, les poètes, » disait-il. « Chacun doit travailler avec ce qu'il a, moi avec la flore autrefois riche de notre pays, dont une grande partie est maintenant en voie de disparition, et eux avec notre langue, qui est en train de subir le même sort. » « Quand j'étais enfant, » affirmait-il, « il y avait beaucoup plus de mots, mais, un par un, ils sont tombés en désuétude. Nous en sommes arrivés à un point de l'histoire où la langue est en pleine régression. » Un beau jour, nous serons ramenés à l'état d'être sans langage. Et alors, comme pour prouver ce qu'il avançait, il la laisse s'asseoir sur la terrasse et puiser dans le jardin un silence sinistre. Mais il n'arrivait jamais à se taire très longtemps. Tôt ou tard, les mots restants jaillissaient hors de lui. Aucun de nous deux n'était originaire de ce pays. Né dans la capitale, il l'était un peu plus que moi, mais sa mère venait des Carpates et son père de Leipzig. Il avait grandi dans les zones délaissées entre les grandes langues internationales, raison pour laquelle, peut-être, il avait été attiré par l'une d'elles qui, bien que morte, donnait à chaque chose son nom. Et, étant morte, jamais elle ne change. Un lac est un lac, et c'est un lac pour toujours. Un lac ne peut pas un jour devenir un œil aveugle ou une tombe. Un après-midi où nous étions en train d'inspecter une nouvelle cargaison de fougères et d'orchidées dans les jardins du Haut, un cortège de berlines noires aux vitres teintées remonta l'allée des palmiers impériaux, soulevant un nuage de poussière, et s'arrêta devant le bureau provisoire. Les voir, telles des fouines brunes au milieu de la verdure, me fit froid dans le dos. Les quatre portières de la première voiture s'ouvrirent brusquement et quatre hommes en uniforme militaire et lunettes de soleil cerclées d'or descendirent. L'un d'eux tapa à la porte du bureau, entra et ressortit au bout de quelques instants. Les quatre portières de la deuxième voiture s'ouvrirent alors et quatre hommes en uniforme surgirent à leur tour, dont l'un fit un geste nonchalant dans notre direction. Les portières de la troisième berline noire restèrent fermées. « Ne devriez-vous pas aller les accueillir ?» lui demandai-je. « Si, répondit-il, tout en restant cloué sur place, une petite Afelandra squarosa tremblant au creux de sa main. « Si, bien sûr, répéta-t-il, plus à la plante qu'à quiconque. » Finalement, ils vinrent le chercher et l'emmenèrent dans la troisième berline. Une seule portière s'ouvrit de l'intérieur et je me rappelle que, tandis qu'il scrutait l'habitacle sombre garni de cuir, son visage était celui d'un homme au bord du gouffre, redoutant à la fois de tomber et de se jeter dedans. Un plan après l'autre, un croquis après l'autre, un massif onduleux après l'autre, il faisait plier la nature. « La nature, disait-il, n'est pas un collier de pâquerettes, ce n'est pas un lit de roses. La nature n'est qu'ingratitude. » Mais il n'essaya jamais de la dompter, il ne lui ôta jamais ses griffes ni son venin. C'était là son secret, ce qui le distinguait de tous les autres. Il la faisait seulement plier, il ne la brisait jamais. C'était là son génie, ce fut aussi la cause de sa chute. Il laissait à la nature sa violence, et un jour, la nature se retourna contre lui et l'anéantit. Pas un jour, en fait, très lentement, discrètement, mais le résultat fut le même. Je regardais le cortège de voitures disparaître de la même façon qu'elles étaient arrivées, puis, malgré mon émotion, me remis au travail. Travail qui, après tout, se résumait à entretenir consciencieusement les plantes fragiles et exténuées venues, au terme d'un long voyage, prendre place dans le célèbre parc conçu par le grand botaniste et architecte paysagiste qui avait appris aux gens à voir l'exquise beauté des espèces indigènes de son pays. Ce soir-là, un beau soir de printemps d'un bleu lumineux, je rentrais chez moi à bicyclette, pris un bain et regardais la crasse s'écouler en tourbillonnant dans la canalisation où elle rejoindrait tous les autres sédiments dans leur lent retour vers la mer, flottant, une lieue après l'autre, en silence. J'aurais aimé appeler quelqu'un pour lui raconter ce qui s'était passé, mais qui pouvais-je appeler? Je me dis que je ne le reverrai peut-être jamais, ce qui, avec le recul, montre combien j'étais naïf concernant la façon de travailler des généraux. Je passai une nuit blanche. Le lendemain matin, quand j'arrivais de bonne heure au parc, il était déjà assis à son bureau. Il n'était pas beau à voir, ou bien il avait dormi tout habillé, ou bien il n'avait pas dormi du tout. Mais je fus tout de même soulagé. Je préparai le thé. Quand j'apportai le plateau, il insista pour verser lui-même le liquide fumant dans nos deux tasses. Sa main était agitée d'un très léger tremblement, et des gouttes de thé giclèrent dans la soucoupe. « Il y a des choses que vous devriez savoir, » me dit-il d'une voix calme. « Ah oui ? » fis-je en ajoutant une grosse cuillerée de sucre dans sa tasse. Je le remuai et nous le regardâmes fondre. « Nous ne vivons pas des temps normaux, » murmura-t-il. « Pour édifier un parc comme celui-ci, il faut frayer avec le diable. » Je croisai mes mains sur mes genoux, les mains d'un simple jardinier, et me mis à observer mes ongles. Un jardin est un agencement de lumière. Il faut imaginer d'où brillera le soleil, comment il se couchera et comment il se lèvera, quelle feuille révélera, laquelle dissimulera. Je déroulai les plans du parc et, sans un mot, oui, en promenant mon doigt, j'attirai son attention sur un détail ou un autre jusqu'à ce que sa vision lui revînt. Puis je me levai et rangeai le plateau du thé. « Dieu réside dans vos jardins, lui dis-je, avant de sortir de la pièce pour entamer le travail de la matinée. » Il m'invita à Three Winds. L'invitation pouvait avoir de multiples significations et ce n'est qu'en sentant mon estomac se contracter que je compris que je l'attendais. Le domaine était situé à plus d'une heure de voiture sur la plaine côtière. J'étais assis devant, à côté de son chauffeur, et lui occupait la banquette arrière. De temps en temps, je sentais son regard se poser légèrement sur ma nuque, comme une mouche. Three Winds était un jardin tourné vers l'intérieur. C'est là que l'architecte paysagiste donnait le meilleur de lui-même, qu'il expérimentait avec la plus grande audace, selon sa fantaisie. Lorsqu'il me fit visiter le parc, je me rappelle mon émotion en approchant des murs de béton sans toit, telle une ruine venue du futur, ou de l'allée luisante et humide qui serpentait à travers les broussailles jusqu'à une cathédrale d'arbres. Après cela, il m'emmena voir la pépinière, la collection de plantes tropicales, l'herbier, puis la petite chapelle bénédictine dédiée à saint François, et finalement son atelier de peinture couvert de plantes grimpantes. Comme je me tenais devant l'une de ces grandes toiles, une débauche de couleurs entremêlées, je sentis une main glisser pesamment jusqu'à mon épaule. Son souffle était lourd et tiède, et il exhalait une odeur de santal et de vin. « Que voyez-vous ? » demanda-t-il tout près de mon oreille. « C'est un beau tableau, monsieur, » répondis-je. J'entendis un gargouillis au fond de sa gorge. « Vous n'êtes peut-être pas l'homme que je croyais, » chuchota-t-il. « Je vois un précipice au premier plan et des loups derrière, » dis-je. Ses doigts agrippèrent plus fort mon épaule. « Vous les voyez, n'est-ce pas ? » fit-il. « C'est bien ça. » Peu de temps après, on envoyait chercher mes affaires et la petite pièce attenante à la cuisine orientée à l'est me fut attribuée. Le lit était étroit mais confortable et, depuis la chaise, je voyais un cerisier aux fruits chaque jour plus mûr. Sur l'appui de la fenêtre, je posais la petite boîte en étain venant de l'endroit où je suis né, avec des vues de Enkersteg, de l'opéra et du Bratwurst-Glöcklein, et sur l'étagère, je disposais mes livres de botanique. Je pris rapidement mes nouvelles fonctions, répondant aux courriers, surveillant les commandes, organisant le planning, encadrant le personnel et veillant aux besoins, urgents ou non, du plus grand architecte paysagiste d'Amérique latine. Il n'avait jamais fini de travailler, cependant nous partagions parfois un moment de tranquillité, et je ne pense pas exagérer en disant qu'il me paraissait alors plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Mais cela ne dura pas. Lorsque nous recevons un avertissement, ce qui arrive ensuite ne nous apparaît-il pas toujours comme inévitable? Le jour où les généraux arrivèrent de la ville à Three Winds dans leur voiture noire, je les accueillis en haut de l'allée et les conduisis jusqu'à la maison où je leur servis de la limonade sur le plateau de cuivre martelé. Tout cela dans une atmosphère mondaine. Ils firent ensuite le tour du parc. Dans la petite chapelle de Saint-François, l'un d'eux s'agenouilla et se signa. Au moment de leur départ, ce même général fut incapable de retrouver ses lunettes de soleil. Aussitôt, l'architecte paysagiste se jeta par terre et se mit à ramper frénétiquement parmi les chaises de la longue table de salle à manger. Je ne l'avais jamais vu ainsi, on eût dit un chien ou un cafard, et j'avais envie de lui crier de se relever, mais en même temps je savais que je n'avais pas d'autre choix que de l'imiter. C'est alors que je me souvins de la chapelle, j'y partis en courant. Les lunettes étaient bien là, luisant sous le banc vide. Le général les examina pour s'assurer qu'elles étaient intactes, puis il me sourit et essuya lentement mes traces de doigts à l'aide d'un mouchoir. Peu, très peu de temps après, les jardins du bas, au cœur du parc municipal, furent remplacés sur les plans par un lac scintillant dont personne ne pouvait atteindre le fond, qui, de toute façon, était en béton. Les bulldozers arrivèrent, qui éventrèrent le sol, pelletant furieusement les arbustes, puis le terreau brun fut emporté dans des camions qui montaient et descendaient avec fracas l'allée des palmiers impériaux. 4 jours passèrent, pendant lesquels le trou resta béant sous le ciel vide. Enfin, ils arrivèrent une nuit, les gens qui s'occupent de tout ce qui est enfoui. Ils enterrèrent ce que les généraux voulaient enterrer, puis coulèrent le béton. S'il y eut des coups de feu, des cris, ou uniquement le silence des morts, je n'en sais rien. Nous étions très loin, confinés dans Three Winds, où l'horloge comtoise de Leipzig marquait sereinement les heures. Le travail avait dû réquisitionner toute une petite armée d'exécutants avec leurs camions et leurs projecteurs, car, au matin, le béton avait déjà séché sous le soleil qui ne cesse jamais de briller. Quelques semaines plus tard, le lac était en eau, le soleil s'affairait sur sa surface bleue et un message officiel nous parvint du chef suprême de la nation lui-même, Bateaux à aubes. C'est tout. Les oiseaux arrivèrent de leur côté dès qu'on eut placé les lentilles d'eau et les nénuphars. De ma chambre, je l'entendais appeler, quel que fût l'endroit de la maison où il se trouvait, encore qu'à la longue j'appris à reconnaître les sons qui précédaient une question, et, avant même qu'il pût demander quoi que ce fût, j'étais sur le pas de la porte. Si le téléphone sonnait, c'est moi qui répondais, moi qui savais s'il était en mesure de parler ou s'il fallait prendre un message, moi qui disais au cuisinier ce qu'il devait préparer pour le dîner, qui l'aidais à se coucher quand il avait trop bu, qui lui apportais son premier thé fumant le matin, dans le bol du XVIe siècle envoyé par un admirateur japonais, moi qui lui tendais son crayon, son chapeau, sa canne, sa truelle, son couteau, moi qui arrivais avec la trousse de premier secours quand il se coupait, car il était, lui, notre plus grand architecte paysagiste et botaniste, dégoûté à la vue de son propre sang. Tout pousse dans ce pays avec un tel soleil. Sous le vigilant regard de bronze des généraux, les palmiers impériaux poussèrent. Les feuilles des nénuphars géants devinrent aussi grandes que des tables. Les bambous géants atteignirent 4 ou 5 étages de hauteur. Lorsque la brise les traversait, leurs tiges claquaient, et, penchés sous le vent, ils crissaient comme des freins de tramway, et, chose étrange, il y avait aussi, dans ces bambous, comme un bruit de sabots de cheval, un braiement d'âne, et jusqu'à la rumeur de toute une basse-cour. Il y avait des chuchotements et le bruit d'enfants jouant, ou pleurant, ou simplement chantant à mi-voix. Mais le plus grand architecte paysagiste d'Amérique latine ne les entendit jamais, car, après la fin des travaux et la cérémonie d'ouverture, il n'eut plus le temps de revenir dans les parcs et les jardins qu'il avait conçus pendant son mandat de directeur des jardins publics. Des parcs, après tout, fréquentés et appréciés par les nombreux visiteurs qui venaient arpenter leurs allées ou se reposaient sur leurs bancs. Ces années-là furent pour lui une période de grande activité, et sans mentir, de bonnes années dans l'ensemble. Il avait son travail. Le grotesque incident du lac ne se répéta jamais. Et lorsque, presque 15 ans plus tard, certains des généraux s'enfuirent du pays, que certains autres passèrent en jugement et que la plupart se retranchèrent derrière les hauts murs en stuc de leur belle demeure pour finir leur vie dans la paix de leur propre jardin, personne ne se soucia de notre architecte paysagiste. Lui aussi, on le laissa en paix. « Que voulez-vous que je dise ? » hurlait-il souvent. « Mon travail était simple. Je récoltais des plantes et concevais des parcs et des jardins. Ni plus ni moins. J'habite une maison construite de mes propres mains, entourée de mes hectares de plantes et d'arbres, certains communs, d'autres très rares, si rares qu'il faudrait vous enfoncer dans la forêt pendant des jours, comme je l'ai fait, pour les découvrir. Certains de ces arbres, je les ai plantés voilà bien longtemps, lorsque j'étais jeune, hurlait-il, et maintenant ils sont vieux, comme moi, à cette différence près que leurs plans à eux n'ont pas été saccagés, profanés et saccagés, étouffés dans les ténèbres. Une fois seulement, je le regardais droit dans les yeux et déclarais, tranquillement et clairement, « Ce n'est pas vous qui avez été étouffé dans les ténèbres. » Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage, celle d'un enfant qui n'a encore jamais été giflé. Il eut un mouvement de recul, de fuite ou l'ébaucha, mais au bout du compte, on ne peut se fuir soi-même. Les dernières années, nous fîmes de nombreux voyages. C'était la seule chose qui allégeait momentanément sa mauvaise humeur. Nous visitâmes l'Alhambra. Au lac de Côme, nous séjournâmes à la Villa d'Est et nous promenâmes dans les jardins de la Villa Carlotta et de la Villa Cipressi. Nous nous rendîmes à Arezzo pour voir les Piero della Francesca et à Florence pour admirer les frères Angelico. C'était ma première visite en Italie et il insista pour que je monte jusqu'au sommet du Duomo et que je fasse le tour de sa double coque pendant qu'il boirait un café en bas. À un moment convenu d'avance, je devais sortir sur la minuscule terrasse d'observation, tout en haut, et lui faire signe de la main, alors lui me répondrait de la même façon. L'ascension fut pénible, l'escalier était raide et les couloirs très étroits. Plusieurs fois, je dus surmonter une vague suffocante de claustrophobie. Il me fallut gravir en courant les derniers étages afin d'atteindre la terrasse à l'heure fixée, et j'y arrivais hors d'haleine. Finalement, la claustrophobie s'avéra n'être rien à côté du vertige. Agrippé au mur, les jambes flageolantes, je regardais par-dessus le parapet. Très loin sous moi, parmi les petits points blancs des tables de café disposées sur la place, je vis quelqu'un qui faisait un signe de la main. Je répondis. Il recommença et je répondis une nouvelle fois. Il continua à agiter la main, comme pour tromper l'ennui. « Combien de temps cela va-t-il durer ?» me demandai-je. Et soudain je compris que je projetais de le quitter, de le laisser seul avec tous ses fantômes et ses démons pour commencer une autre vie quelque part ailleurs. Tout m'était encore possible, les portes m'étaient ouvertes. En bas, il agitait toujours la main. J'avais à présent l'impression qu'il voulait me dire quelque chose. Ne me demandez pas comment je le savais, car de si haut je ne distinguais évidemment pas son visage. D'une certaine manière, je savais qu'il articulait quelque chose à mon intention, ou le criait peut-être, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, était parfaitement vain. Je me dis qu'il y avait un problème, et revins précipitamment sur mes pas dans l'escalier étroit, un tournant après l'autre, sans jamais en atteindre la base, sans même jamais m'en approcher, alors que, allez savoir, il pouvait avoir fait une crise cardiaque sur la place. Mais quand j'émergeai enfin au grand jour et courus vers le café, trempé de sueur, je le trouvais absorbé dans la lecture d'un journal. « Qu'essayiez-vous de me dire ? » demandai-je. « De vous dire ? » fit-il. « Comment cela ? J'étais aveuglé par l'éclat du soleil. Je ne savais même pas si vous étiez là-haut. » Bien que n'étant pas chrétien, je me suis souvent senti attiré dans la chapelle de Thruins pour regarder à nouveau le petit tableau de saint François tenant la colombe. Il y a ceux qui ont commis d'horribles crimes, et ceux qui ont approuvé. Ce que je n'ai jamais su, c'est ce qu'ont à approuver ceux qui approuvent. Je restais parfois longtemps là, si longtemps que les rayons de soleil colorés qui tombaient par les vitraux migraient sur un autre mur. Notre dernier voyage nous emmena aux États-Unis. Comme là-bas c'était l'hiver, je sortis le manteau de fourrure de son père de la remise, la zibeline russe qu'il avait apportée avec lui de Leipzig. Elle sentait la malle en bois de cèdre, mais elle était encore superbe. Enveloppé dans cette fourrure qui tombait presque jusqu'au sol, il était étrangement impressionnant, et les gens se retournaient sur son passage. Le manteau le faisait parler plus fort, comme s'il l'empêchait de s'entendre lui-même, ce qui attirait encore davantage l'attention. Il refusait de le quitter, même à l'intérieur, et parfois, quand il mangeait dans la majestueuse salle du petit-déjeuner de l'hôtel, il arrivait qu'un morceau de nourriture tombât dans la fourrure et s'y logeât. Nourriture que j'essayais ensuite d'enlever à la brosse lorsqu'il avait le dos tourné, ou lorsqu'il s'était endormi à l'arrière d'un taxi, au terme d'une longue journée de marche. C'était dans ces moments-là que je voyais combien il vieillissait, et j'étais pris de panique. Comment réussir à garder chaque chose à sa place ? Les chaussures sous le lit, le verre sur la table, la colombe dans la main, la chaise près de la porte, la truelle prête à l'emploi, le cuisinier à la cuisine, le soleil dans le ciel, la feuille sur le sol, la lumière sur le lac. C'était trop, comme l'un de ces rêves où, chaque fois que vous vous retournez, quelque chose s'est déplacé dans votre dos. Mais il finissait toujours par se réveiller et, enfoncé dans l'énorme fourrure, il recommençait à parler, à lui-même ou à moi, je ne savais jamais très bien, et je me remettais à écouter, comme d'habitude, acquiesçant de temps à autre d'un signe de tête, mais sans jamais en dire beaucoup. Presque rien, en fait, et les choses étaient exactement comme elles l'avaient toujours été entre nous, comme elles le seraient toujours.